On va continuer dans la suite de Romains. On aborde le chapitre 6. Voilà, on va prier et commencer. Prions. Seigneur, on te remercie pour la joie d'être ensemble. Et comme je le priais, Seigneur, on veut penser aussi à toutes les autres églises qui sont réunies ou qui vont se réunir incessamment sous peu dans notre pays. Et aussi dans le monde entier, Seigneur. Ton Église, Seigneur, c'est elle qui va passer l'éternité avec toi. Ce n'est pas un petit club, c'est l'ensemble de tous ceux qui mettent leur confiance en toi pour leur vie éternelle, Seigneur. Parce que tu t'es sacrifié à la croix pour nous tous. Seigneur, nous te demandons de les bénir, de les faire grandir. Que chaque membre d'Église ait à cœur d'inviter des amis, des parents, des collègues, des voisins à parler, je prie qu'ils te parlent de toi, qu'ils parlent à ses amis, ses contacts de toi, Seigneur, mais aussi qu'ils les invitent à se joindre à eux, à venir à l'Église, voir la louange de ton nom, découvrir ta parole. C'est comme ça que j'ai été touché, Seigneur, et on sait que si tu veux nous utiliser pour attirer les gens à toi, Seigneur. Donne-nous confiance que même si nous ne sommes pas parfaits, Seigneur, nous avons les vraies réponses aux questions que se posent tous nos concitoyens. On sait que les réponses, ce n'est pas dans la politique, ce n'est pas dans l'économie, ce n'est pas dans l'organisation, ce n'est pas non plus dans la religion, dans les religions, Seigneur, c'est dans la relation avec toi. Sois glorifié ce matin alors que nous annonçons ta parole. Nous te remercions infiniment de tout notre cœur pour ce livre de cette lettre de Paul aux Romains qui nous fait comprendre ce qui se passe dans notre monde, ce qui se passe dans nos cœurs, ce qui se passe dans la vie que nous menons et du péché qui peut nous rendre esclaves, Seigneur. Nous avons là, dans ce texte, les clés, la solution, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre, à saisir complètement ces vérités. Et Seigneur, c'est vrai que, comme il a été dit dans les derniers sermons par Tonio, qu'il y a des réalités spirituelles. Et Seigneur, parce qu'elles ne sont pas visibles, nous pensons souvent qu'elles ne sont pas réelles. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de cette idée et surtout de recevoir ces choses spirituelles comme des vérités absolues qui peuvent transformer nos vies, changer la façon de voir le monde. Et je te prie aussi, Seigneur, de bénir l'enseignement des jeunes, l'enseignement des enfants, qu'ils puissent vraiment recevoir, être présentés, qu'ils te connaissent dès le plus jeune âge. Merci pour les adolescents qui sont présents et qui ont des questions auxquelles ils doivent répondre, Seigneur, et qui vont les rendre attentifs. Rends-nous tous attentifs à ta parole. Sois béni par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va revoir un peu où nous en sommes dans le livre, parce qu'il y a toute une progression logique. On l'a dit, on l'a répété, Paul avait un brillant intellect. Dieu ne nous invite pas à ne pas utiliser notre tête pour recevoir ses vérités, et Paul avait une grande tête, au point même que l'apôtre Pierre disait qu'il y avait des fois des choses difficiles à comprendre chez son frère Paul, mais qu'elles étaient très importantes et qu'il fallait faire un petit effort. Paul écrit à l'église à Rome, qui est composée de juifs et de païens. Son thème, c'est l'évangile, la bonne nouvelle du salut offert par Christ, par Dieu, en la dans le sacrifice de Jésus-Christ qui s'est offert pour nos péchés et qui veut nous bénir et nous sauver. Et il y a un pasteur dans notre ville, un ami, qui, à l'église biblique baptiste, Alain Morino, dont la femme vient de... Nous devons prier pour elle, et Seigneur, nous te la remettons. Elle est tombée malade, elle avait eu un problème de vésicule biliaire, elle a été hospitalisée. Et là, elle a commencé à avoir des difficultés respiratoires, on a pensé qu'elle attrapait une pneumonie. Et en fait, hier, ils ont réussi à trouver qu'en fait, il s'agissait d'une légionellose. Une maladie grave au point qu'elle est, elle est maintenant sous respirateur et on prie que le Seigneur la redresse, la relève. Mais c'est vrai que de savoir qu'il y a des personnes autour de nous qui sont atteintes de légionellose, ça va nous faire nous intéresser à savoir quels sont les remèdes, est-ce que c'est guérissable. Il y a des antibiotiques qui permettent de guérir, mais c'est une maladie qui peut entraîner la mort. Et hier, quand j'ai appris que c'était une légionellose, j'avais entendu parler de cette maladie. Elle s'appelle de ce nom parce qu'il y avait un groupe de l'American Legion, des gens d'un certain âge qui avaient une convention aux États-Unis. Et ils avaient tous attrapé une maladie qu'on ne connaissait pas, et certains en mouraient. Et du coup, on a appelé cette maladie légionellose. C'est assez récent, c'est il y a 20, vingtaine, trentaine d'années. Et du coup, on est plus attentif. Moi, j'ai été regarder sur Internet, comment ça se soigne, qu'est-ce qu'on fait. Et un peu de la même façon, Paul veut d'abord nous montrer, avant de nous parler du remède, de l'évangile, il veut nous montrer que nous avons une maladie grave, pire que la légionellose, pire que le sida, pire que toutes les maladies cardiaques auxquelles vous pouvez penser. Nous avons une maladie du péché. C'est un mal incurable, sauf par l'Évangile, par la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus-Christ. Donc Paul, dans les chapitres 1 à 3, il nous a présenté la maladie dont nous sommes tous victimes. Et on évoquait cette chanson de Michel Sardou, je crois, ou peut-être c'était un autre, j'oublie son nom. « Je suis malade ». C'est qui ? Serge Lama, qui le chantait si bien. « Je suis malade, complètement malade. Nous pouvons chanter, nous sommes malades de cette maladie du péché. » Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une cure, la justification par la foi en Jésus-Christ. Nous avons ce péché, mais si nous venons à Jésus-Christ, nous recevons sa sainteté, nous recevons sa parfaite moralité, sa parfaite justice, sa parfaite droiture. C'est même plus gros, j'ai même utilisé un mot à la Ségolène Royal, la droititude. Nous sommes parfaitement justes, parfaitement acceptables par Dieu si nous venons à Jésus-Christ par la foi. Pour prouver sa position, sa théorie, il nous montre de façon très convaincante que même Abraham et David, les plus grands héros des Juifs, ont été eux aussi justifiés, déclarés justes, simplement par la foi. Parce que la loi est arrivée après, parce que la circoncision, dont les Juifs s'enorgueillissaient, est arrivée bien après. Puis Tonio vous a montré les bénéfices de notre justification. Nous avons la paix avec Dieu, nous avons accès à Dieu, nous avons une espérance, c'est-à-dire une attitude d'assurance complète dans un bien à venir. C'est une espérance glorieuse. Nous C'est-à-dire, nous bénéficions, si nous vivons au bénéfice de cette justification, d'un caractère chrétien qui nous construit pour les épreuves, nous sommes prêts à affronter les épreuves, et puis nous avons accès à l'amour de Dieu, la préservation de sa colère à venir et la réconciliation avec Dieu. Paul a comparé Adam et Jésus-Christ. Adam, c'était notre représentant, un peu la tête de l'humanité déchue qui est tombée. Et Christ, comme un nouvel Adam, est notre représentant comme tête de l'humanité rachetée. Et Tonio l'a bien expliqué, à cause de la désobéissance d'Adam, la race entière a été condamnée à la mort. Nous avons deux bras, nous avons deux jambes, si tout va bien, parce que Adam avait deux bras et avait deux jambes. De la même façon, nous sommes pécheurs parce que notre ancêtre a péché. Nous péchons parce que nous sommes pécheurs. N'allez pas croire que vous êtes pécheurs parce que vous avez commis des actes de péché. C'est l'inverse. Nous avons cette vieille nature de péché en nous, héritée d'Adam. Et c'est ça qui nous conduit à pécher. Tôt ou tard, le péché va sortir de notre vieille nature et ça prend, tenu la rappeler, ça prend que quelques jours pour que le petit bébé nous montre qu'il est affecté par ce péché d'Adam. Il est mignon tout plein, le petit Django. Il est tout innocent. Il est mignon. Non, il ne peut pas avoir péché. Mais laissez-le piquer une crise de colère parce que sa maman ne lui donne pas à manger assez vite ou parce qu'elle ne le change pas assez vite. Et vous réaliserez que si vous lui mettiez un bouton rouge qui pourrait détruire tous ses parents qui ne veulent pas le servir, il n'aurait aucun problème à les désintégrer. C'est parce qu'il est de la race d'Adam. Et Tonio a bien expliqué aussi que la mort, ce n'est pas quelque chose de naturel, ou du moins, ce n'est pas quelque chose que Dieu avait prévu. Et on est tous à se dire, mais pourquoi la mort? Pourquoi la mort? Et parce que nous sommes dans cette race malade du péché, nous allons tous mourir. Même si nous venons à Jésus, notre vieille nature, notre corps physique va passer par la mort, à moins que Jésus-Christ ne revienne nous chercher, qu'on soit dans cette période de l'histoire qui va nous permettre d'échapper à la mort physique. Mais ce qui est merveilleux, c'est que il y avait l'ancien Adam et maintenant il y a le nouvel homme, le nouvel Adam que Jésus-Christ est, parce que grâce à lui, par son acte d'obéissance, toute la race humaine à la possibilité d'être sauvé, à la possibilité d'avoir la vie éternelle. Et la justification, cette chose merveilleuse, elle est offerte à tous, elle est universelle. Au chapitre 6 que nous allons commencer aujourd'hui, c'est une nouvelle partie de l'Épître. Il ne parle plus de la justification, mais de la vie sanctifiée de celui qui a été justifié. Il nous parle de la sanctification. C'est comme un des fruits de la foi et de l'obéissance à l'Évangile. Avant de quitter ce domaine de la justification, j'aimerais clarifier un point. Dans la lettre que Jacques écrit aux églises, que nous avons dans la Bible, il oppose la foi et les œuvres. On va s'y tourner rapidement. Jacques 2, 14, c'est page 1379, si vous avez la petite Bible qui est empruntable à l'église. Si vous avez besoin d'une Bible, levez la main. Et Sébastien se fera une joie de vous apporter une Bible. Je vois que tout le monde avait la Bible. Jacques 2, 14 à 26. Mes frères et sœurs, Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques », à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'aurait-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été justifié, il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. C'est ce dernier verset qui pose des fois problème. Et on dit oui, en fait, il faut la foi, mais il faut aussi les œuvres. En fait, et quelqu'un l'a très bien dit, c'était le grand prédicateur anglais de la fin du 19e siècle, Charles Spurgeon, a dit « La foi qui ne conduit pas aux œuvres est une foi qui ne peut pas sauver mon âme. La grâce qui ne transforme pas ma vie ne peut pas sauver mon âme. » Pour certains disent qu'il y a une contradiction en ce verset 26 qu'on vient de lire et ce que dit Paul. Et en fait, c'est tout simple, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de désaccord entre Paul et Jacques. Jacques déclare que la véritable foi qui sauve, par rapport à une foi qui serait purement intellectuelle, qui consisterait à dire « je suis d'accord avec cette théorie », mais si elle est réelle cette foi, elle va se manifester immanquablement par des œuvres, par des bonnes actions. Ces œuvres sont la preuve qu'on est justifié. S'il n'y a pas d'œuvre, on peut douter qu'il y ait une justification. Il y aura peut-être une justifiction, mais il n'y aura pas de justification réelle. Romains 5, 9 déclarait que nous sommes justifiés par le sang versé, c'est la base de la justification. Romains 3, 24 disait que nous sommes justifiés par la grâce, c'est la source de notre justification. Romains 3, 28 et 5, 1 disent que nous sommes justifiés par la foi, c'est la condition. Et entre parenthèses, si vous avez le désir de servir, d'aider, venez nous parler, ce ne sont pas les occasions qui manquent dans l'Église et même au-delà de l'Église. Vous pouvez aller parler à Paul et Elisabeth, ils vous trouveront des actes de service, des œuvres dans lesquelles vous pourrez vous lancer, qui seront la preuve qu'il y a eu un changement dans votre cœur. Alors c'est intéressant, on va... juste rappeler un peu une comparaison. La sanctification que nous abordons aujourd'hui, c'est un processus qui veut dire qu'on devient de plus en plus saint. Alors saint, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des statues dans les églises devant lesquelles on va faire brûler des cierges. Ça veut simplement dire qu'on va être de plus en plus mis à part pour le service de Dieu, pour honorer Dieu par nos vies. La sanctification, c'est une séparation vers Dieu. On est mis à part pour Dieu. Et cette sanctification, c'est aussi l'état résultant, la conduite de ceux qui sont ainsi séparés vers Dieu. Le salut, on en a déjà dit deux mots, il y a trois aspects dans le salut. Il y a d'abord celui dont on vient de parler dans les cinq premiers chapitres, la justification. Maintenant, on aborde la sanctification, et puis on va pas trop en parler, un peu dans Romains 8, mais la dernière étape, l'étape finale, c'est la glorification. Et notre salut, ça consiste en ces trois choses. Ici, il y a d'abord un acte. On a dit que c'était comme un document administratif qui était signé, tamponné. Ça y est, je suis déclaré juste. Pam, un coup de tampon. Par contre, la sanctification, ça va être un processus. Ça prend toute une vie. Et ce n'est qu'à la fin de notre vie, lorsque nous nous retrouverons en présence de Dieu, que ce processus sera terminé. Ça ne veut pas dire qu'il sera parfaitement fini, sauf que Paul, dans Philippiens, disait qu'il était persuadé que celui qui avait commencé une bonne œuvre en vous allait la poursuivre jusqu'à son terme. Et une fois qu'on passera de l'autre côté de l'éternité, par cette transformation bizarre qu'on appelle la mort et qui fait peur à tous les êtres humains, nous nous retrouvons en présence de Dieu dans ce qu'on appelle justement la glorification, cet état éternel. Donc c'est très important de réaliser certains aspects de ces choses. Si ça vous intéresse, et peut-être que je devrais vous mettre à votre disposition la semaine prochaine, je ne l'ai pas préparé pour aujourd'hui, mais un petit papier qui compare justification, sanctification et glorification. Donc essayez de prendre des notes si vous le voulez, mais rassurez-vous, je m'engage à vous fournir le document. Donc vous pouvez écouter. Un acte, un processus, un état éternel, la glorification. La justification, encore une fois, c'est quelque chose d'instantané. Au moment où je mets ma foi en Christ de tout mon cœur, je dis oui, c'est vrai, j'ai cherché de tous les côtés, je réalise que c'est la vérité. Je fais confiance à Dieu pour ma vie éternelle. La sanctification, c'est progressif, ça prend tout le reste de ma vie. La glorification, c'est un état éternel. Alléluia. La justification, c'est la substitution avec Christ. Christ est mort à ma place, je le crois, et c'est comme si moi, je suis mort avec lui. Christ est mort à ma place, et c'est une de ces réalités spirituelles qui n'en est pas moins réelle. La sanctification, c'est de réaliser que je suis mort avec Christ, et la glorification, c'est que je suis vivant avec Christ pour l'éternité. La justification, je suis déclaré juste. La sanctification, je suis rendu juste. La glorification, je suis juste comme Jésus pour toujours. Jean dira dans 1 Jean 3:21, nous ne savons pas ce que nous serons, mais nous savons que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. La justification, la justice de Christ est imputée, mise à mon compte. La sanctification, la justice de Christ est communiquée par le Saint-Esprit. Et dans la glorification, la justice de Christ est la mienne. Pour l'éternité. Il y a une réconciliation dans la justification, dans la sanctification, il y a une régénération, dans la glorification, il y a une union avec Christ pour toujours. La justification, c'est une naissance spirituelle. Rappelez, il vous faut naître de nouveau, disait Jésus à Nicodème. La sanctification, c'est une croissance spirituelle. La glorification, c'est une plénitude spirituelle. La justification, c'est l'œuvre de Dieu pour nous. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et la glorification, il n'y a plus d'œuvre. Il n'y a que du repos et de la joie. Alléluia. La justification, c'est une affaire de doctrine, de croyance, de position. La sanctification, c'est une affaire de pratique et de conduite. La glorification, c'est l'état éternel de pure félicité, le bonheur. C'est la jouissance de la présence de Dieu. C'est la jouissance et le bonheur d'être pour toujours d'être en la présence et dans la famille de Dieu. J'avais parlé pour illustrer la justification du fait que j'aurais pu demander la naturalisation américaine et que je ne l'ai pas fait pour des raisons de... À l'époque, c'était pas... On devait renoncer à la nationalité française, et puis après, quand ça a changé, j'étais pas au courant, j'étais bien, j'avais pas besoin. La seule chose, c'est que je payais des impôts sans être représenté, sans avoir le droit de vote. Mais la justification, encore une fois, c'est ce coup de tampon, c'est cette déclaration officielle avec les cachets en cire, justifié, déclaré juste, accepté par Dieu. Ça ressemble à la naturalisation. Par contre, la sanctification, ça prend du temps. Et je plaisantais en disant que c'est comme un phénomène d'acculturation où je serais devenu de plus en plus américain. J'aurais peu à peu perdu mon accent français, I would speak English. Mais je disais que ça prendrait du temps avant que je préfère le Coca-Cola au rosé pour manger un bon repas, un poulet frites même. Ou que je préfère le fromage blanc ou orange, les deux choix qu'on a là-bas, avant de renoncer aux 400 fromages français qui sont disponibles dans les bons magasins. Donc ce phénomène de devenir en plus à l'aise dans cette nouvelle citoyenneté, ça prend toute une vie. C'est la sanctification. Et puis la glorification, il n'y a plus de soucis. Il y a des milliers de toutes les nations loueront Dieu. Il n'y aura plus à s'en soucier. Donc la justification, encore une fois, c'est les chapitres 1 à 5 de Romains. La sanctification, ce sont les chapitres 6, 7 et 8. Et il y aurait d'autres points de comparaison, comme la relation à l'esclavage du péché. On a dit que la justification, on était libéré de l'esclavage du péché. La sanctification, on n'est plus esclave, mais on peut vivre, continuer de vivre comme un esclave. Ce qui est dommage, parce qu'on n'a aucune raison de se soumettre à l'esclavage du péché. On en a été libéré, on peut dire non. Pas besoin de le faire. En la glorification, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de relations. On est tous dans la famille. On est des membres de la famille de Dieu. La justification, il faut entrer dans le salut par la porte étroite dont parlait Matthieu. La sanctification, le salut est vécu sur... Dans la marche, on se déplace sur un chemin étroit, mais c'est faisable avec l'aide de Dieu et l'Esprit qui vient nous aider. Et puis dans la glorification, il n'y a plus de soucis, c'est la liberté totale. C'est là qu'on peut dire, comme le disait saint Augustin, aime Dieu et fais ce que veut. Parce que si on aime Dieu, et là on n'aura plus la présence du péché pour nous tenter, tout ce qu'on fera sera conforme à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu, à l'amour des autres. Et ce n'est pas une utopie, encore une fois. C'est quelque chose qui va arriver, plus tôt qu'on ne le pense. Encore une fois, On a malheureusement eu des enterrements cette semaine. Celui de Stéphane, le frère de David. David, c'est le mari de Jane, le papa de Olivia et Jake. On a un jeune homme qui s'est... le beau-frère d'un pasteur, un ami, qui s'est tué à 19 ans en moto du jour au lendemain. Ça peut arriver à n'importe quel moment, et comme le disait le prophète Amos, es-tu prêt à la rencontre de ton Créateur ? C'est pas se dire, oh, je ferai ça plus tard. Non, c'est maintenant qu'il faut y penser. Avec cette petite introduction, je crois que j'ai battu tous les records d'introduction, on a passé une demi-heure, mais je crois que c'est important de replacer les choses, et le reste, vous verrez. Ce qui est formidable avec Romains, et surtout maintenant dans les parties, il y a le passage 7, le chapitre 7, qui peut être un peu ardu, et c'était intéressant d'avoir donné ce cours à des étudiants qui chaque jour me donnaient des réponses aux questions en ligne, et j'allais voir s'ils avaient bien saisi ce que je disais. Et donc, ma prière, c'est que vous saisissiez vraiment les vérités qu'il y a dans Romains. C'est un des plus beaux textes de la Bible, parce qu'il explique des choses fondamentales sur l'homme, sur le péché, sur Dieu. On va lire un peu le texte maintenant, je vais me reposer, si vous voulez vous lever pour vous changer un peu le rythme cardiaque, sinon vous allez vous assoupir. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Et en parlant de mettre nos corps mortels au service de Dieu, comme des instruments de justice, ça me rappelle que je devais demander que pour samedi 2 décembre, on avait besoin de quelques personnes, de quelques hommes, puisque les femmes assisteront au thé de Noël, pour s'occuper des enfants pendant l'heure et demie, les deux heures peut-être, que durera ce thé de Noël, pour pour permettre aux mamans avec des enfants de ne pas avoir à s'occuper, de pouvoir être attentives au message. Généralement, la bonne nouvelle, c'est que quand vous faites ça, on vous réserve des bonnes choses. Et je vous assure, quand vous voyez le plateau de dessert que les femmes se préparent, vous en salivez à l'avance. Mais ceci dit, revenons à notre texte. Il reste quelques minutes pour parler de ce que nous venons de lire. Le chapitre 6 va, dans ce passage, nous parle de notre mort au principe du péché. C'est un peu théorique. Le reste du chapitre, les versets 14 à 23, que Dieu voulant, nous regarderons la semaine prochaine, nous parle de la mort à la pratique du péché. Je vous avais dit que les divisions de la Bible en chapitres ont été imaginées, pas par le Saint-Esprit, mais par un dénommé Stephen Langton en 1227, puis plus tard en 1551, facile à retenir, par Robert Estienne, il l'a divisé en versets. On dit que Stephen Langton a fait ses divisions de la Bible pendant qu'il était dans les transports en commun. À Paris, on a plein de temps pour travailler la Bible dans les transports en commun, mais en fait, il était à cheval et il mettait à profit le temps qu'il passait à cheval pour aller d'une église à une autre pour faire ses divisions. Et souvent, ces divisions, elles auraient pu être plus judicieuses, on va le dire comme ça. On le remercie parce que ces divisions et ces versets, ces chapitres et ces versets nous permettent de dire, voilà, Romains 8, 1, il n'y a plus aucune condamnation. Ça me permet de cibler, de repérer, sinon on aurait beaucoup de textes. Non, c'était plus au début. Attends, de quoi ça parle ton truc? Là, on a les versets, mais c'est souvent pas très judicieux. Et notre exemple est un bon exemple ici. Le début du chapitre 6, en fait, c'est un peu la fin du chapitre 5. On va revenir un peu sur le chapitre 5 pour reprendre le fil. En effet, verset 19, comme par la désobéissance, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous avez déjà vu, peut-être au moins en film, peut-être en personne, à des ventes aux enchères. J'imagine que vous n'avez pas été aux ventes aux enchères organisées par les grands cabinets comme Sotheby's qui vendent des tableaux de Van Gogh à 1 milliard ou des millions, mais il y a des ventes aux enchères où on peut acheter des voitures et qui sont des fois on peut faire de très bonnes occasions. Mais l'idée, c'est un peu que là où le péché a augmenté la mise, Dieu, c'est comme si la grâce dépasse l'enchère du péché. Et vous pouvez penser qu'à un moment donné, il y a un péché qui est trop grand, que Dieu ne peut plus pardonner. Eh bien non. La grâce montre un signe et augmente le prix d'achat, de rachat. Et donc c'est un merveilleux principe. Quel que soit le péché, il y a toujours une quantité de grâce qui est disponible et qui est supérieure à ce péché. Et Paul quelqu'un a dit, le chrétien qui croit qu'il pourrait épuiser la grâce de Dieu est aussi ridicule, aussi stupide qu'un petit poisson qui se restreindrait de boire dans l'océan parce qu'en se disant, si je bois trop, je risque d'épuiser, de vider l'océan. C'est stupide, c'est ridicule. Eh bien, Dieu veut que vous sachiez que penser que vous puissiez un jour épuiser sa grâce, c'est aussi stupide. Si vous le voulez, vous pouvez nager dans l'océan de la grâce de Dieu. D'où la question, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Paul avait parlé de ça à d'autres personnes que dans cette lettre aux Romains, et il savait qu'il y avait des petits malins qui allaient lui dire « Mais alors c'est très bien, si de toute façon on sait qu'il y a de la grâce qui va couvrir, qui va gagner les enchères, alors allons-y gaiement, plus de restrictions, pêchons librement et même. » Ça, c'est pour ceux qui voulaient pervertir son évangile et continuer à vivre dans le péché. Mais il savait qu'il y en aurait qui diraient c'est chouette, on peut pêcher autant qu'on veut. Et il y avait ceux qui voulaient dire qu'il fallait la grâce, mais il fallait aussi respecter la loi. C'est bien d'être sauvé par la grâce, mais il va falloir quand même travailler. Donc il sait qu'il y a des gens qui sont prêts à dire « L'enseignement de Paul conduit au péché. » Il nous dit qu'on peut pécher autant qu'on veut, de toute façon on est couvert par la grâce. Mais ça c'est très dangereux, c'est parce que c'est faux. Et l'idée aussi c'était, quand je pêche beaucoup, je permets à Dieu de démontrer l'abondance de sa grâce. Donc en quelque sorte, je lui permets d'être adoré encore plus. Alors allons-y gaiement, pas de restriction, allons-y. En plus, ça plaît à notre chair de pécher. Et donc c'était un danger, et c'est pour ça qu'il dit, allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie, que la grâce abonde ? Ça va pas à la tête ! Certainement pas ! C'est très fort dans le texte grec. Alors, quand on regarde les traductions, il y a différentes expressions qui sont utilisées. Vous n'y pensez pas que cette idée effroyable périsse ? Jamais de la vie ! N'y pensez même pas. Mais ils veulent tous dire la même chose. N'entretenez même pas cette pensée stupide. Nous sommes morts pour le péché, dit cette version, où nous sommes morts au péché. Attention, Paul ne dit pas que le péché est mort en nous. Ah, si seulement c'était le cas. On a vu que ça va arriver, mais il va falloir attendre la fin de votre vie, la glorification, et là, il n'y aura plus de présence du péché. Et le péché n'aura plus aucun intérêt. Ne laissez personne monter ici et vous dire « Je suis libéré du péché. » Ça fait 34 ans que je n'ai pas commis un seul péché. On le fera partir manu militari et on vous corrigera cet enseignement de mensonge. C'est pas moi qui le dis. C'est Jean, dans 1 Jean 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous mettons le doigt dans l'œil jusqu'au coude et jusqu'à l'épaule. » Ça ressort par je ne sais pas où, mais c'est stupide, c'est faux. La vérité n'est point en nous, n'est point en nous. Dans ce verset 2, nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Paul déclare que c'est un principe fondamental de la vie chrétienne. La vie nouvelle en Christ a amené la mort de l'ancienne vie. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Voici, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Est-ce que vous y croyez ? Ou est-ce que vous dites, oui, mais ça serait bien, mais c'est pas pour moi, ça. J'ai pas tellement changé depuis que j'ai mis ma foi en Christ. Là encore, c'est le danger de croire que les réalités spirituelles, parce qu'on ne les voit pas nécessairement de nos yeux, ne sont pas réelles. Il y a des réalités spirituelles qu'on ne voit pas, et encore une fois, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est pas vrai. Tout à l'heure, quand vous allez prendre votre téléphone, vous aurez foi dans des choses que vous ne voyez pas. Alors vous verrez votre téléphone, mais vous ne verrez pas toutes les ondes et le Wi-Fi, etc., qui vous permet d'entrer en contact avec quelqu'un à distance. Ici, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais si vous y prêtez bien attention, vous pouvez entendre du chinois, du roumain, du ruski jezik, du russe. Habla espagnol, vous pouvez écouter. Parlare italiano, vous pouvez. Il suffit d'avoir le bon récepteur. Et ces choses, toutes ces ondes qui nous bombardent, qui nous traversent, elles sont vraies. Elles ne sont pas visibles, mais elles sont réelles. Et toutes ces choses spirituelles, c'est très important quand on est chrétien de croire à ce qui est déclaré dans la parole. C'est ça qui décide. Ce n'est pas nos impressions, nos sentiments. Nos sentiments, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont sujets aux circonstances extérieures. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, merci petit Jésus. Pardon. Si tout va bien, on est plutôt optimiste. Si le soleil se lève, ça va très bien. Si on est dans la pluie, qu'on doit transporter des bagages, monter des escaliers, des ascenseurs, des escalators pour aller du centre de Paris à la gare de Roissy, Charles de Gaulle, là, on n'est pas en forme. Nos sentiments, on n'est pas prêt à croire à la bonté de Dieu. Tout ça parce que on est des hommes de chair et de sang, et ces émotions, elles jouent un rôle. Mais il y a des choses que vous devez connaître spirituellement qui dépassent vos sentiments. Il y a trois grands verbes dans le passage qu'on a lu. Il y a le verbe « savoir ». Paul veut qu'on sache des choses. Et puis, il va nous dire qu'il y a des choses qu'on doit considérer. Et c'est le mot de comptabilité, de mettre sur notre compte, de réaliser qu'on possède certaines choses. C'est de la comptabilité. Et puis, le dernier verbe, c'est le verbe de se présenter. Donc, il faut savoir réaliser que c'est vrai et mettre les choses qui sont dites à notre compte. Et puis ensuite, fort de ça, on va aller se présenter, non pas au mal, mais se présenter à Dieu pour le servir. Il dit, il parle de l'image du baptême, versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. C'est le symbole du baptême. Le mot baptême, ça veut simplement dire immerger, tremper. Quand vous voulez nettoyer une casserole qui est bien sale, vous la baptisé dans de l'eau chaude avec du savon. Et tout ça, c'était un symbole. On en a parlé, avant de partir, on a baptisé Enrico dans la Méditerranée, l'eau était fraîche. Mais c'était un symbole que Dieu nous demande de pratiquer pour qu'on se rappelle qu'on est mort avec lui. Le baptême, c'est un signe de notre identification à sa mort. quand on vous met complètement dans l'eau, on s'est assuré qu'il n'y avait pas un bout qui dépassait. Pourquoi ? Parce qu'on voulait être sûr qu'il mourait à son ancienne nature. C'est un symbole, c'est un peu comme on l'enterre dans une tombe liquide. Et puis après, on le relève en signe de résurrection à une vie nouvelle, en nouveauté de vie. 1 Corinthiens 10, 1 et 2 dit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la Néhée, qu'ils ont tous passé au travers de la mort, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. La nation, c'est une identification. La nation d'Israël a été identifiée à Moïse. L'immersion par l'eau, elle symbolise cette identification en Jésus. Dans 1 Corinthiens 12, 13, il est dit: Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. L'esprit nous baptise en Christ. Matthieu 3, 11, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'était la promesse, mais parce que Jean-Baptiste baptisait dans l'eau, le baptême de résurrection. Christ nous baptise en esprit. Puis maintenant, verset 5, il aime bien, parce qu'il avait la passion de communiquer ses réalités, il a pris l'image du baptême, maintenant il dit: qu'est-ce que je pourrais dire? Et il trouve l'idée de la greffe. Nous sommes, verset 5, nous avons été à lui, unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Verset 5, dans d'autres versions, parle que c'est le mot qui veut dire cette union. C'est comme on devient une même plante avec lui. C'est l'idée d'une greffe de plante. Il parle dans un autre passage, 2 Corinthiens 5, 14, « L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Quand vous réalisez cela, vous n'avez plus à pécher, à céder au péché. » Et le passage que j'ai cité, je crois sans vous donner la référence, c'est Galates 2, 20, pas Éphésiens, c'était Galates 2, 20, c'est pour ça que je ne le trouvais pas en cherchant Éphésiens. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » On est greffé en lui, on est mort avec lui. Et un principe important, c'est que les morts ne pêchent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de veiller un mort ou de voir une personne décédée dans un cercueil. Certaines fois, on ferme tout. D'autres fois, on laisse les personnes voir le visage de la personne décédée. Et c'est drôle parce que vous pouvez laisser une bouteille de whisky. Vous pouvez laisser des gâteaux à la crème. Vous pouvez laisser des magazines pornographiques à côté de la personne décédée et jamais vous le verrez prendre avec sa main les choses. Le mort ne peut plus pécher. Une image un peu bébête, mais les morts ne pêchent pas. Donc si nous sommes morts au péché, morts avec Christ, nous sommes morts pour le péché. Nous sommes morts au péché. Encore une fois, le péché n'a pas de pouvoir sur nous normalement. Encore une fois, quand il parle d'une greffe, ça prend du temps pour que ça prenne. Mais à la fin, on ne peut plus distinguer la greffe de l'arbre. Au verset 6, il parle du corps de péché. Le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Le péché peut toujours être près de vous, vous tenter de plus en plus, mais vous avez toujours la possibilité de dire non. Vous il est, cette expression, le corps du péché est réduit à l'impuissance. Ça me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais pu acheter avec mes petites économies, les cours que je donnais, une vieille voiture, une Simca 1000, pour ceux qui auraient connu, c'était une espèce de savonnette avec un petit moteur de 1000 chevaux, de 1000 centimètres cubes, pardon. C'était caractérisé par sa faiblesse, le moteur. Et sur l'autoroute, on n'allait pas vite. Mais je l'ai beaucoup conduite. Et à la fin, un jour, je me suis retrouvé à un feu rouge. Et j'entendais le gars à côté qui... Lui, il avait peut-être pas 1000 chevaux, mais il en avait bien 500. Ou c'est une voiture puissante. Et moi, j'étais là avec ma petite Simca 1000. On aurait dit une moulinette à café. Et puis, le feu est passé au vert. J'ai rembrayé pour démarrer avec mon moteur qui tournait au maximum. Là, ça fait un grand bruit. Et puis, je n'ai pas bougé. Le gars était loin, il était déjà à Aix-en-Provence. Moi, j'étais toujours à Marseille. Qu'est-ce qui s'était passé? L'embrayage avait lâché. Et je pouvais accélérer autant que je veux, même avec mon moulinette à café. Plus rien ne se passait. Pourquoi? Parce que le corps du moteur était détaché du corps de la voiture. Le moteur, il n'y avait plus de prise. Il avait perdu toute influence sur la voiture. Ce n'est pas une bonne chose quand on veut conduire une voiture. J'avais dû, après ça, faire changer le moteur. J'avais appris beaucoup de mécanique. Mais c'est l'idée. C'est que je ne suis plus en prise. Le péché n'a plus de prise sur moi. Je peux lui dire, je peux refuser, parce que l'embrayage a été détruit. L'embrayage du péché dans ma vie a été détruit. Alors ça ne m'empêche pas, je peux pousser la voiture, je peux aller vers le péché, continuer et insister, mais je n'ai aucune raison de me soumettre à la tentation du péché. Si je veux recevoir le pardon pour mes péchés, je dois avoir Christ mourant pour moi sur la croix. Si je veux recevoir le pouvoir de vaincre le péché dans ma vie, je dois me voir moi-même crucifié et ressuscité avec lui. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Je sais qu'on a du mal à le recevoir. Mais encore une fois, comme Tonio l'a enseigné, il y a des réalités spirituelles qui sont plus fortes que nos impressions, nos sentiments. Maintenant, nous avons le choix, nous n'avons plus à être intimidés par le péché. Celui qui est mort est libéré, verset 7, de l'emprise du péché. Nous étions morts dans nos péchés, maintenant nous sommes morts au péché. Verset 9, car nous savons que Christ est ressuscité et ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, une fois qu'on sait ces choses, considérez. Mettez ça sur votre compte mental ou votre banque spirituelle. Considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu. En Jésus-Christ, notre Seigneur, Christ a vaincu la mort et il vit pour Dieu. Nous avons reçu la même vie. Éphésiens 2,6 déclare une autre vérité spirituelle. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant qu'on considère ces choses-là, donc le péché, une exhortation, c'est le premier passage où il nous donne quelque chose à faire. Dans les premiers chapitres jusqu'à maintenant, il nous expliquait tout ce que Dieu avait fait pour nous. Maintenant, c'est à nous de savoir ces vérités, les considérer. Et puis, verset 12, que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels et pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous, offrez-vous, venez à Dieu, vous-même à Dieu, comme des morts revenus de la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Les membres, ce n'est pas seulement les bras et les mains, c'est toutes nos facultés physiques, mentales, notre œil, nos mains, nos paroles, nos pieds, nos mains aussi. Toute notre attitude, tout notre être doit être mis à la disposition de Dieu pour être utilisé pour sa justice. Plutôt que de regarder de la pornographie, de mettre mon œil au service du mal, je le mets sur la beauté de la création, je le mets sur les autres qui souffrent autour de moi, je mets mes bras, je mets toutes mes ressources et je sers Dieu. Verset 13, évitons les situations dangereuses. Ne vous approchez pas du péché. Il y a une attraction gravitationnelle du péché dans le sens où plus on est près du péché, plus il est difficile de stopper le processus d'attraction et de finir par tomber dedans. On verra dans Romains 13, 14, « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Si vous dites « J'ai arrêté de boire de l'alcool, mais vous achetez un gros magnum de whisky que vous mettez dans un placard en disant « J'y touche pas », vous faites que vous allez être tenté de plus en plus. Puis un jour de fatigue, « Allez, un petit coup, ça me fera du bien. » Verset 13, c'est « Les instruments de la justice », c'est le mot « arme ». Parce que c'est pas la vie chrétienne, c'est pas une partie de campagne, c'est pas un pique-nique. On va avoir un pique-nique. Ici, c'est pas des offrandes qu'on présente à l'Éternel, c'est pour le dessert. On vous invite à rester si vous le pouvez. Si vous faites ce que vous devez faire, vous n'aurez pas le temps de faire ce que vous ne devez pas faire. Employez-vous à faire des bonnes choses. Engagez-vous, disait-il. Rengagez-vous. La verset 14, et ça, je termine avec ça, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. On a vu, la loi révèle le péché. Elle augmente le péché parce qu'on a un cœur rebelle et si on nous interdit de faire quelque chose, notre premier réflexe, c'est de vouloir le faire. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Dieu leur avait dit, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première chose, oh, la peinture fraîche, n'y touchez pas. On a toujours de la peinture fraîche sur les doigts. La loi ne donne pas le pouvoir d'obéir à la loi, à elle-même. Vous êtes sous la loi, vous êtes sous la loi, en fait, nous pouvons être sous sa grâce. Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Prions. Seigneur, toutes ces vérités, elles sont difficiles à recevoir, à intégrer. Aide-nous à les connaître. Aide-nous à savoir toutes ces choses. Aide-nous à considérer qu'elles sont vraies et que nous n'avons plus à nous soumettre au péché. Nous sommes libérés de la tyrannie du péché, Seigneur. Et tu veux, une fois que nous sommes forts de cette justification, tu veux que nous soyons sanctifiés, tu veux que nous venions nous présenter à toi pour servir, te servir et servir le bien, Seigneur. Aide-nous à, dans ce processus de sanctification, à savoir dire non au péché, à savoir dire oui, à toutes les opportunités que tu nous offres pour te servir, Seigneur. Sois glorifié. Merci parce que tu nous invites éventuellement, en fin de compte, à participer à cette glorification. Pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que tu es merveilleux et nous serons pour toujours en ta présence. Permets que ces vérités ne restent pas des connaissances intellectuelles, mais par ton Esprit Saint, Seigneur, plante-les au plus profond de nos cœurs. C'est notre prière, c'est notre requête. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.